Radio Transparence, l'info locale en impromptu.
Et c'est au Mas d'Asile que nous sommes, dans un très beau bâtiment en bois. On est du côté de la forêt de Castagnès, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est parce qu'il y a des châtaigniers à côté d'Exploria, où s'est installée il y a maintenant 7 ans l'association Coco Pelli. L'association Coco Pelli, bon, on va en parler dans un moment, on va aussi parler d'un festival qui aurait dû avoir lieu au mois de juillet, début juillet, qui va être non pas annulé, parce que je crois qu'on en reparlera, mais que Coco Pelli tient, reporté à l'année prochaine. Et puis d'une autre opération qui mettra en valeur, mais ça on en parlera dans un petit moment avec Ananda Guillet, les plantes médicinales. Mais pour le moment, on va faire un petit tour du propriétaire, enfin voilà, en tout cas un petit tour des lieux avec Anita Sigrist. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc ici on est dans ce beau bâtiment, hein, monté donc il y a maintenant 7 ans.
Non, alors pour être exact, Coco Pelli est arrivé au Mas d'Asile fin 2013. On louait un bâtiment
Oui, c'est vrai, oui, je me souviens.
Oui, Cap de l'Ourme pendant les débuts, et on est dans ce bâtiment qui a été construit en éco-construction. Ça a duré plus de 2 ans, la construction, et on a déménagé ici en novembre 2017. Du coup, ça va faire un peu plus de 2 ans qu'on se trouve dans ce magnifique bâtiment.
C'est un beau bâtiment, il y a des beaux volumes, on s'y sent bien, c'est grand et en même temps c'est coucouné. Alors on se dit c'est bien pensé.
Eh ben c'est bien pensé, et c'est vraiment avec la réalisation du bâtiment, ça a été en grande partie réalisé avec Couseran Construction, et on a travaillé avec quasiment que des artisans ariégeois, parce que on a tout ce qu'il faut en Ariège pour réaliser un bâtiment d'une telle ampleur.
Alors Adita, on est ici à Coco Pelli dans l'espace de vente où l'on vend quasiment un seul type de produit, quasiment, parce que je crois que c'est pas exactement le cas, mais c'est des semences, parce que peut-être le rappeler pour les auditeurs, à Coco Pelli, voilà, c'est une association qui promeut les semences, qui promeut des semences libres, loin des dictats des grands semenciers. C'est quoi Coco Pelli ?
Alors l'association Coco Pelli, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, et on se bat pour la libération de la semence. Et donc la mission première de l'association, c'est de distribuer des semences libres de droit et reproductibles. Donc libres de droit, c'est parce que Coco Pelli, en fait, on est contre le brevetage du vivant, quel qu'il soit, mais on est aussi contre ce fameux catalogue européen des semences qui autorise ou non la distribution d'une semences en Europe.
Et qui donc contribue à la perte de biodiversité de façon générale.
Exactement, ouais. Parce que sur ce catalogue, pour pouvoir inscrire votre variété dessus, déjà il va falloir payer, et ensuite il va falloir que votre variété réponde à certains critères que aujourd'hui quasiment seuls les hybrides fins, justement les semences contre lesquelles nous battons, répondent. Et donc toutes les semences que nous proposons chez Coco Pelli ne sont pas inscrite à ce catalogue, en tout cas pas de notre initiative, et reproductible, c'est-à-dire que quand vous achetez ou quand vous recevez des semences d'une variété de chez Coco Pelli, vous pouvez année après année récupérer une partie de votre récolte de semences pour les réutiliser.
C'est ce qu'on appelle la semence paysanne à la maison.
Exactement.
En gros. Parce qu'avec les semences du commerce normal, on n'a normalement pas le droit. Bon, on n'a pas un huissier à la porte de chaque potager, mais sur le papier, on n'a pas le droit de ressemer ce qu'on avait semé l'année dernière.
C'est ça. Et qu'en fait, actuellement, aujourd'hui, je vais être gentille, 90% de ce qu'on consomme, aussi bien en conventionnel qu'en bio, c'est issu de ces semences hybrides à fin.
Oui, qui elle, de toute façon, je crois, ne regerme pas derrière. Hein.
Alors, ça va dépendre des espèces. On préfère dire que la descendance de ces F1 sont soit stériles, soit dégénérescentes.
C'est pas par hasard.
C'est pas par hasard, non. C'est pas très intéressant de ne pas pouvoir... Enfin, pour, en tout cas, les semenciers, c'est pas très intéressant de ne pas pouvoir...
Revendre tous les ans.
Exactement.
Ouais. Coco Pelli, on en avait entendu parler pour beaucoup quasiment il y a 20 ans, hein, parce que vous avez été au cœur d'une grosse polémique et justement d'un procès. Je me souviens des pétitions pour aider Coco Pelli, parce que justement, ce combat-là, c'était un combat illégal. Enfin, en tout cas, c'était ce que vous voulez faire valoir les semenciers.
C'était et c'est toujours un combat illégal. Et vous faites allusion à nos nombreux procès. Et ces procès, en fait, c'est assez compliqué de résumer ça rapidement, mais je vais essayer. En gros, au tribunal, on n'a jamais vraiment gagné, jamais vraiment perdu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans la rue et aux yeux des gens, ce combat-là, on le gagne. Et à chaque fois que...
Que vous passez au tribunal, qu'il y a des articles.
C'est vraiment la meilleure publicité qu'on peut espérer. Donc du coup maintenant, on nous laisse tranquille, on va dire. Mais c'est dans un but bien spécifique, c'est de plus vraiment nous donner une voix assez forte.
Alors à Cocopelli, ces semences, on les fabrique.
Alors on ne fabrique pas des semences, mais on travaille avec un réseau d'une trentaine de producteurs de semences qui multiplient. Alors c'est selon les années, on distribue entre 1500 et 2500 variétés de semences potagères, médicinales, céréalières, aromatiques ou florales.
D'accord. Je disais on fabrique parce que vous avez quand même un atelier, je sais pas comment on dit, un labo, je sais pas comment ça s'appelle. Ici on est dans un espace de vente et juste derrière, voilà, il y a des gens qui ont l'air très affairés. Comment ça fonctionne?
Si vous voulez, on va pouvoir se diriger. Donc en fait, les semences, c'est notre réseau de producteurs qui les multiplie avec des plannings de production que l'association établit. Et donc chaque producteur multiplie entre 80 et 150 variétés. Ces variétés, à l'automne, elles vont arriver ici, à la maison de Cocopelli. Elles sont triées, nettoyées. Ensuite, sur chaque lot de semences qu'on reçoit, chacun passe un test de germination. Et donc, une fois que ce lot de semences répond à nos critères de germination.
Ça veut dire qu'il faut qu'un certain nombre, une certaine proportion de graines germent pour justifier qu'on les mette dans les paquets et qu'on les vende aux gens.
Par exemple, pour les tomates, notre taux de germination, c'est de 90%. Et si un lot ne répond pas à cette exigence de 90%, soit il repasse au tri et au nettoyage. Et très souvent, c'est un problème de tri qui fait qu'il y a un problème de germination. Ou sinon, c'est un lot qui est tout simplement retiré de la vente, vu qu'il n'a pas encore été mis en vente, mais qui ne sera pas mis en vente.
Donc là, les gens que je disais très affairés préparent les tests de germination.
Alors non. Là, les personnes que vous voyez sont en train d'ensacher les semences dans des sachets.
D'accord. Donc une fois que le test est passé...
Une fois que le test est passé, il y a les sachets qui sont imprimés dans la salle juste là-bas. Une fois que les sachets sont en sachet, ils sont disponibles sur le site internet où on réalise, alors pas en ce moment vu que tout a été annulé, mais on est aussi présent sur de nombreuses foires et salons un peu partout sur tout le territoire français.
Combien de variétés de graines on trouve dans le catalogue de Cocopelli?
Alors, ça va vraiment dépendre des années, ça va dépendre aussi des récoltes de nos producteurs, mais selon les années, comme je vous le disais, c'est entre 1500 et 2500 variétés. Et chaque année, ce sont d'autres variétés aussi pour faire en sorte que de préserver l'ensemble des souches que nous possédons.
D'accord. Vendu en salon, vendu par correspondance, vendu, je crois, dans les biocoop, pour ne pas les citer, et donc vendu ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Mas d'Azil acheter des semences, parce que vous avez une jolie boutique.
Alors, de plus en plus. Alors là, avec cette période de confinement, on avait complètement arrêté la possibilité de venir à la boutique. Et ça fait quelques jours qu'on recommence, parce que ça nous fait de la peine de laisser les gens à la porte. Et on est en train de mettre en place un moyen de pouvoir accueillir les gens en toute sérénité et qu'ils puissent tout de même venir voir en fait ce qui se passe dans la maison de Cocopelli.
Oui, d'autant plus quand vous le disiez, en Ariège, beaucoup de gens ne sont pas encore au courant, connaissent Cocopelli, veulent commander à Cocopelli, veulent soutenir Cocopelli, mais ne savent pas que Cocopelli est en Ariège.
Oui, alors avec le festival qui a eu lieu en 2018, je pense qu'il y a de plus en plus d'Ariégeois qui ont conscience que Cocopelli est en Ariège, mais c'est vrai que ça arrive encore de temps en temps d'avoir des personnes qui nous appellent pour demander des informations et que quand on leur dit qu'on est au Mas d'Asile, ils sont tout étonnés et ils se disent « Ah bah j'habite juste à côté, je vais passer ».
Le festival, vous faites une magnifique transition, c'est un métier. Hein. le festival Cocopelli donc avait organisé un festival qui s'appelait « Les tambours de Gaïa » il y a maintenant 2 ans, et il était normalement reconduit du 3 au 5 juillet cette année. Bon, ben forcément, comme la quasi-totalité des festivals, il a été annulé. Alors, non pas parce qu'il n'avait pas le droit de se tenir, parce que ça reste encore à prouver, mais parce que, comme beaucoup de festivals, j'imagine, c'est l'incertitude, pas savoir si on pourra ou pas. Et voilà, en tout cas, le festival n'aura pas lieu. Pour autant, le terme annulation est tabou. C'est pas une annulation.
Alors, le terme annulation ne nous convient pas parce que ça donne la sensation d'échec quelque part et que du coup on préfère dire qu'il est reporté à 2021, du 2 au 4 juillet 2021. Et on espère, en tout cas on est en train de travailler pour faire en sorte que la programmation qu'on offrait en 2020 puisse être sensiblement la même en 2021. On est déjà en contact avec nombreux artistes et conférenciers parce que c'est pas uniquement un festival de musique, c'est aussi un festival de conférences en journée où on attendait plus d'une vingtaine de conférenciers. Il y avait une dizaine d'ateliers de production de semences il y avait vraiment de nombreux ateliers prévus. Et donc, du coup, tout ce qui a été prévu pour 2020, on espère pouvoir le reproposer en 2021. Et on espère pouvoir simplement faire encore mieux.
Donc, un festival 2020 en mieux qui aura lieu en 2021.
C'est bien ça.
Les tambours de Gaïa annulés.
Reportés.
Vous voyez, j'ai du mal. Je suis désolé. Ça va, vous me pardonnez?
Ça va.
On va partir, je crois... sur un autre site, pour trouver Ananda Guillet, le président.
Je vous propose d'aller rejoindre Ananda, qui est le président de l'association Cocopelli et qui a de nombreuses casquettes. Il est aussi exploitant agricole d'une ferme qui est productrice de semences pour Cocopelli, qui s'appelle Cotilédon.
D'accord. Du coup, on va prendre une voiture et y aller. Et avec lui, on va parler de plantes médicinales. Dernière question, Anita. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors, on écoute quelqu'un qui aurait dû venir au festival 2020 et qu'on espère recevoir en 2021, Oxmo Puccino. Une en particulier?
Bah ouais.
Je te connaissais pas.
Moi non plus, je te connaissais pas. Merci, Anita.
Les gens s'écoutent mais ne s'entendent pas. Beaucoup parlent mal de ce qu'ils ne connaissent pas. Je te connaissais pas, je pensais pas. Je dépensais dans les bars, le cœur bel et bas. Je te connaissais pas, j'étais bien. Bon, je rentrais sans heure, jamais la même dans l'ascenseur. Maintenant, moins de groupes, y a mes concerts. Une bonne partie de mes coups de fil te concerne. Les gens peuvent s'aimer avant de se croiser. D'ailleurs, tout de suite, j'ai su que c'était toi. Un homme à soif de 1000 aventures. On les veut toutes mais il en suffit d'une. Je te connaissais pas. Je te connaissais pas. Je te connaissais pas. Je te connaissais pas. Les gens se rapprochent quand pour s'éloigner. La moitié de nos souvenirs peut en témoigner. Tu me connaissais pas, tu te répétais tous les mêmes, aucun pour me compléter. Tu as paumé ton innocence dans ces relations sans résonance. Puis tu t'es préféré seul au fond de ton panier plutôt que mal accompagné. Tu ne connaissais pas ce genre d'homme qui reste après t'avoir contemplé, à perdre dans tous les sens. Tu n'attendais plus, puis nous avons fait connaissance. Tu me connaissais pas. Tu me connaissais pas. Tu me connaissais pas. Tu me connaissais pas. te connaissais pas comme tant d'autres, j'étais assuré qu'aucune ne m'aurait dans la durée. Avec toi spécialement, je peux m'y faire. Dans l'espace, deviens mon hémisphère. Te mettre à l'épreuve quand la routine s'installe, que la rage arrive par la vaisselle sale. Je tomberai peut-être plus amoureux, mais dans le cœur, la clé des hommes heureux. Avec mes impossibles rêves d'artiste, te reconnaître en faisait partie. Rien ne poussait sur ma banale planète. Tu m'as fait mettre des fleurs sur mon arbalète. Je te connaissais pas. Tu me connaissais pas. On se connaissait pas. On se connaissait pas.
Et on est toujours au Mas d'Asile, on change de partie du Mas d'Asile, on passe de l'autre côté de la grotte. Et donc on est sur un domaine chez Ananda Guillet, ça s'appelle Kawet.
Kawet.
Et c'est un site où on cultive des graines. Voilà, il y en a qui cultivent l'authentique et il y en a qui cultivent des graines. Parce qu'à Ananda Guillet, vous êtes à la fois le président de Cocopelli et à la fois producteur de semences. Donc, comme l'a expliqué d'ailleurs Anita, pour Cocopelli. Donc ici, on a une grande surface maraîchère. On a l'impression d'être dans une exploitation maraîchère. On est en train de semer, de planter. Sauf que c'est pas pour vendre sur les marchés, c'est pour faire des graines.
Ouais, c'est ça. En fait, on fait à peu près le même boulot, on va dire, que des maraîchers, sauf qu'on va, on pousse la croissance des plantes jusqu'au bout du processus. Et donc, le bout du processus, c'est la reproduction, évidemment. Donc, une laitue, plutôt que de l'accueillir à son stade de laitue, on va la laisser monter à graines et on va faire le travail de récolte de la production de semences offerte par la laitue.
Ouais. Ouais. Donc, ici, on est quoi? Il y a quoi? Il y a 2 hectares, un truc comme ça, hein, de...
Bon,
à peu près.
Alors, je saurais pas vous dire exactement.
Au doigt mouillé.
En vrai, je saurais pas exactement parce que là, toutes les terres, on cultive aussi de la luzerne. Enfin, on a une petite quinzaine d'hectares au total autour de nous. Et après, cultiver vraiment en production de semences, on doit être sur 2,5 hectares. Et d'ici l'année prochaine, on sera sur 4 hectares.
Ouais. Voilà. Et on cultive combien d'espèces différentes, de variétés?
Alors, de variétés, notre plan de production, là, sur la SCEA Cotylédon, il est à 174, je crois, sur l'année 2020-2021, parce qu'on a aussi des bisannuels, donc qu'on va semer maintenant. Par exemple, là, ils sont en train de semer du panais et de la carotte. Ça, on va le récolter en semences à la fin du printemps prochain. Voilà. Donc, c'est un plan de production qui s'étale sur 1,5 an, en fait.
D'accord. Une paille? Compte tenu du catalogue de Cocopelli.
Ah oui, donc la SCEA, c'est un producteur de Cocopelli qui en compte environ 35-40.
On peut en parler encore, on en a parlé un peu avec Anita, de cet intérêt, de cette semence reproductible physiquement, reproductible légalement, même si c'est compliqué. C'est vraiment une philosophie, c'est ce qui est fondateur de Cocopelli. Vous n'êtes pas des vendeurs de graines, c'est ce que je veux dire.
Oui, en effet, on distribue des graines, on va dire commercialement comme un semencier assez classique, sauf qu'effectivement, ça c'est encadré par une éthique, et cette éthique c'est en effet la reproductibilité des semences qu'on propose ou des variétés qu'on propose. Donc une tomate, vous allez la reproduire à l'infini, contrairement à une tomate F1 du commerce classique entre guillemets. Voilà, c'est des grands raccourcis que je fais parce que le sujet est un peu plus complexe, mais c'est l'idée.
Ouais. Ouais. Le F1, c'est les hybrides, souvent on l'entend. Mais d'ailleurs, j'ai entendu un jour un conseil en jardinage de quelqu'un qui dit « Oui, vous mettez du F1 ». Et voilà, ça m'a paru complètement dingue parce que je me dis que quand on est un un vrai jardinier, on ne met pas d'hybride dans son jardin. Mais je ne sais pas ce que c'est un vrai jardinier, finalement.
Ouais, voilà, après, ça définit qu'est-ce que c'est un vrai jardinier, mais bon, il n'y a pas. Disons que les variétés hybrides F1, elles ont connu un essor, ce n'est pas pour rien non plus. C'est, voilà, l'industrie a été assez forte en fait en propagande et pour imposer entre guillemets les F1 à quasiment tous les jardiniers. Après, maintenant, il y a l'authenticité qui revient clairement au goût du jour, pas pour rien, pour une question de santé, pour une question gustative, pour une question d'adaptabilité des variétés. Voilà, il y a tout un tas de très bonnes raisons pour réutiliser des variétés libres de droits aéroplutibles.
Mais alors, justement, parce qu'on dit souvent les variétés hybrides, on les a créées parce que elles résistent mieux aux maladies, parce qu'elles font des fruits qui se transportent mieux, qui résistent mieux une fois qu'on les a cueillis, parce que je sais plus ce qu'il peut y avoir comme raison, mais pour des raisons finalement éminemment très pratiques, comme si les variétés anciennes étaient propices aux maladies, faisaient des fruits qui tenaient pas, voilà, c'est cette idée reçue là qu'il faut battre en brèche.
Oui, complètement. Bon, en fait, les hybrides F1, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles sont standardisables. Et en réalité, en fait, c'est l'industrialisation de l'agriculture qui a vraiment imposé ces hybrides F1. Et en effet, bah, des tomates hybrides F1 qui vont être calibrées de base, on en range beaucoup plus dans une caisse, donc dans un semi-remorque, donc dans un paquebot. Donc, c'est industrialisable beaucoup plus facilement.
Et si elles sont quasi pas mûres, c'est encore mieux.
Et si elles sont même pas mûres du tout, c'est encore mieux parce que elles vont mûrir en frigo, etc. Donc voilà, c'est tous les process pratiques entre guillemets de l'industrie qui sont appliqués à l'agriculture et qu'on appelle agro-industrie, qui font que les hybrides F1, c'est en gros leur seul avantage, si on peut appeler ça un avantage. Après, pour ce qui est de la productivité, c'est ce qu'on dit toujours à Coopélie, si on produit de la matière morte, à quoi bon en produire plus? Ce qu'on veut, c'est des nutriments, c'est des vitamines, c'est des oligo-éléments, etc. Enfin, c'est tout ce qui nous nourrit, des acides aminés. Et ça, les variétés que distribue Coopélie vont être beaucoup plus nutritives que des variétés stériles de l'agro-industrie.
Oui. Avec cette garantie-là, justement, du reproductible, parce qu'on peut acheter des tomates anciennes, même dans des grandes serres, sans aucun problème. Et là encore, celles de Coopélie ont un supplément d'âme, j'allais dire.
J'ose espérer que ceux qui vendent des tomates dites anciennes sont aussi reproductibles. Après, c'est un terme qui est totalement galvaudé et c'est devenu un terme commercial plutôt qu'un vrai gage de qualité. Mais oui, voilà, en tout cas, chez Coopélie, 100% des variétés sont reproductibles. C'est vraiment l'objectif, quoi.
Alors, en parallèle, je ne sais pas si c'est en parallèle, vous organisez donc cette opération autour des plantes médicinales, ça s'appelle Cultivons-nous, pour la libération des plantes médicinales. Oui, parce qu'elles sont un peu en prison, les plantes médicinales, là aussi, hein, j'imagine. C'est aussi une bataille juridique, enfin, on va en parler sur... Alors, voilà, c'est quoi Cultivons-nous?
Bon, la campagne Cultivons-nous, en fait, ça part de l'idée... En fait, pour vraiment comprendre, il faut comprendre la genèse de Coopélie. Et Coopélie, c'est vraiment fondé sur l'idée de l'autonomie, en fait, j'allais dire alimentaire et semencière, mais finalement de l'autonomie tout court. Et il y a deux aspects vraiment principaux aspects, c'est l'alimentation et la médecine, évidemment. Et du coup, Cultivons-nous. On a créé cette campagne pour réintroduire dans les jardins familiaux, en fait, ces plantes médicinales qui ont été remplacées par l'industrie, encore une fois, mais bon, par Big Pharma, entre guillemets, sans vouloir paraître complotiste, parce que on est vite catalogué complotiste quand on parle de Big Pharma, mais en réalité, on a un exemple, par exemple, c'est l'Artemisia annua. L'Artemisia annua, là, en période de crise sanitaire, et je mets des gros guillemets, mais en période de crise sanitaire, on voit que tout le monde parle d'Artemisia annua, parce que ça soigne les fièvres, ça soigne évidemment le palu en moins de 7 jours, et ça a été prouvé et reprouvé, toute l'Afrique l'utilise, et Coopélie en a distribué, je ne sais plus, Anita vous a peut-être donné le chiffre, mais je crois qu'on est à 90 000 ou 95 000 sachets distribués gratuitement l'année dernière. Donc en fait, on a distribué de l'Artemisia annua sur toute l'Europe, la semence d'Artemisia annua, dans le but que les jardiniers amateurs puissent recultiver cette plante-là et l'utiliser au quotidien, la partager, etc. Et chaque année, avec la campagne Cultivons-nous pour la libération des plantes médicinales, on distribue une nouvelle plante. Là, cette année, c'est la Ashwagandha, Witania somnifera.
Qui est une plante indienne, hein, je crois, c'est ça?
Oui, qui est aussi considérée comme le ginseng du pauvre, qui est une plante assez facile à cultiver. C'est les racines qu'on utilise majoritairement, même si toute la plante est utilisable en médecine. Et donc, c'est un tonifiant, c'est un aphrodisiaque, c'est comme le ginseng, en fait. C'est des plantes aux multiples vertus.
Il faut planter sous abri quand même, je crois. Enfin, semer sous abri, mais...
Non, ici. Non. Les semences qu'on distribue, elles, qui ont distribué à Coopelli, ont été cultivées ici, juste à côté. Là, on
à l'air
a
libre.
10 000 à l'air libre. Ouais, ouais.
Bon. Vive le réchauffement.
Bon, je sais pas si ça a à voir avec un réchauffement, mais en tout cas, ça pousse en climat tempéré. En Ariège, on est dans un climat assez doux. En Sibérie, je suis pas sûr que ça marche de la même manière, mais ici, il y a aucun souci. Vous aurez des moins belles plantes que si c'est fait en serre, évidemment, mais ouais. C'est largement suffisant, en tout cas, pour utiliser.
Pour revenir aux plantes médicinales, si je dis pas de bêtises, je m'étais laissé entendre dire, qu'en France, on avait tout un réseau d'herboristes qui vendaient des plantes médicinales et les savoir-faire qui allaient avec, qui se sont éteints petit à petit, et que, comme un symbole, je crois que c'est un décret du maréchal Pétain, qui a interdit la pratique de l'herboristerie et la possibilité de transmettre les affaires. C'est ça, hein ?
Oui, c'est ça. Alors après, je suis pas hyper pointu sur le sujet, mais clairement, oui, c'est en 41, je crois. C'est les mêmes années, en fait, où le GNIS a été créé, le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers. C'est dans ces années-là où, en fait, les cartes ont vraiment été distribuées au niveau de l'agriculture. Et évidemment, les plantes médicinales sont liées totalement à l'agriculture. Et oui, il y a eu l'abolition de l'ordre des médecins homéopathiques, je crois, où il y a eu l'abolition des écoles d'herboristerie à ce moment-là. Alors là, il faut vérifier tout ce que je dis, parce qu'encore une fois, je suis pas hyper calé sur le sujet, mais clairement à ce moment-là la décision a été prise de mettre de côté totalement ces pratiques ancestrales et de les remplacer autant au niveau agricole que médical, de les remplacer par l'industrie,
l'industrie.
En fait,
ouais,
par
oui.
L'industrie, tout ça.
Et est-ce qu'aujourd'hui pratiquer voilà comme vous promouvoir distribuer des graines, peut-être donner des trucs, des façons de faire, etc., c'est quelque chose qui pose des problèmes, je dis pas que c'est hors la loi, mais qui pose des problèmes juridiques ou pas?
Oui, non, mais vous pouvez le dire, c'est hors la loi. En fait, distribuer de la semence d'Artemisia annua tout en faisant ce qu'ils appellent des allégations santé, c'est totalement interdit et on se gêne pas pour le faire. Des allégations santé, on les fait. On se gêne pas pour dire que l'Artemisia est une plante antipaludique, que telle plante est anti-cancer, etc. Parce que clairement, il y a aucune raison, en fait, de laisser, encore une fois, à l'industrie pharmaceutique, qui est responsable de milliers de morts aussi, en fait, avec des vaccins complètement dangereux, des médicaments hyper dangereux, enfin, etc., et qui eux ont tous les droits pour faire autant d'allégations santé qu'ils veulent sur du poison. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire que telle et telle plante sont bénéfiques contre telle ou telle maladie ou pour stimuler telle ou telle défense immunitaire? Donc oui, c'est illégal et on le fait avec grand plaisir. Ça fait 20 ans que Coopelli travaille dans l'illégalité, que ce soit au niveau des plantes médicinales, au niveau de la semence. Enfin voilà, c'est un combat. On a fondé Coopelli. Coopelli, c'est une association, loi 1901, ouais. Et son but, c'est vraiment de lutter contre ces agro-industriels et contre Big Pharma.
Ouais, c'est presque ce qui vous définit, parce que c'est vrai que voilà, ma première rencontre intellectuelle avec Coopelli, c'était les premiers procès et les pétitions pour défendre ce droit à distribuer de la graine libre de droit.
Ouais, exactement. On a eu beaucoup de procès, beaucoup de pression médiatique, de pression juridique, de pression de la répression des fraudes, des RG, de l'inspection du travail, etc. Tout ça, c'est des petites piques qu'on nous envoie en permanence, c'est des petites pressions. On a beaucoup moins de gros tapages médiatiques maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que nous attaquer faisait plus de pub à notre mouvement que de tort, en fait. Du coup, maintenant, on n'a plus de gros procès retentissants, mais le travail n'a pas changé. On travaille toujours dans l'illégalité. La législation n'a pas évolué d'un caramel depuis 20 ans. Donc, on est toujours là et on est toujours un grain de sable dans un rouage agro-industriel.
Et le fait de plus avoir de procès de vitrine médiatique, ça va, ça n'empêche pas non plus Coopelli de fonctionner. Ça va, les gens continuent à venir vous voir de plus en plus.
Oui, parce qu'on
a vous commander des graines.
Oui, oui, on a une équipe de communication qui cartonne et qui met notre combat au devant de la scène en permanence sur les réseaux sociaux, en vidéo. Voilà, on a des gens comme vous qui venaient de temps en temps visiter à la fois les jardins, les locaux. Donc on est mis en avant. De toute façon, notre combat, il est légitime et en fait il parle à tout le monde. Donc il est relativement inconnu, mais quand en tout cas on en parle, quand il est mis au devant de la scène médiatique, l'écho il se fait tout de suite. Enfin ça parle vraiment. Surtout en France, on a une culture qui est quand même pas mal axé autour du jardinage de manière assez ancestrale et du coup ça parle, notre combat il parle vraiment.
Juste les graines, j'arriverai jamais à prononcer le nom de la plante qui est distribuée cette année.
Wittania somnifera.
Merci, j'y arriverai toujours pas. on les trouve à Cocopelli comme les autres graines. Comment voilà comment ça se passe?
Oui, Witania.
Ou est-ce qu'il y a un happening particulier?
Non, en fait, alors c'est il vous suffit d'écrire un mail à l'association Cocopelli et demander un sachet d'ashwagandha ou Witania somnifera ou de la plante mise en avant par Cocopelli cette année et vous recevrez un sachet chez vous gratuitement. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais.
D'accord. contact@cocopelli K-O-K-O-P-E-2-L-I semenceau pluriel .fr et puis bien sûr vous avez un site internet et faut-il le rappeler aux Ariégeois, vous êtes au Mas d'Asile parce qu'il paraît que ça se sait pas encore.
Eh oui, on est au Mas d'Asile et on a une super équipe pour accueillir toute la semaine les gens qui nous rendent visite dans un bâtiment en éco-construction en bois et paille, c'est hyper agréable donc vraiment ça vaut le coup de venir, on accueille dans la boutique tous les jours. Avec grand plaisir.
Ananda Guy, on a une question rituelle qu'on pose depuis le début du confinement à toute personne qui répond à des questions à Radio Transparence. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique après ?
Qu'est-ce qu'on écoute comme musique après ?
Ouais, là, qu'est-ce qu'on écoute comme musique maintenant ?
Ah, mais j'écoute pas énormément de musique, mais j'aurais envie de dire Sonage Obarthe, qu'on a invité au festival l'année dernière et que je réécoute avec grand plaisir.
Sonage Obarthe ?
Sonage Obarthe, ouais.
D'accord. Bon, bah, vous m'avez tendu un piège. Je l'ai fait. C'est moi qui ai commencé. Arroseur arrosé. Puis en plus, il commence à pleuvoir. Ça, c'est un coup de l'industrie semencière. Ouais. Merci beaucoup, Ananda.
Avec plaisir.